Bonjour à toutes et à tous. Je ne sais pas si je vais m'adresser à quelqu'un ce matin, mais j'ai choisi un sujet qui est très vaste, le découragement. Est-ce qu'il y a quelqu'un ici qui n'a jamais connu le découragement? Levez bien vos mains. Oula! Quels sont ceux qui ont déjà connu le découragement? Vous êtes mal barré, hein? Aujourd'hui, on l'appelle stress. Parfois, on dit burn-out, on donne des noms, mais ça reste un découragement, un passage à vide, tout ce que vous voulez, mais ça ne va pas. Ça va, ma sœur, ça ne va pas. Ça ne va pas. Quand ça ne va pas, ça ne va pas. Mais si vous n'avez pas encore connu le découragement, t'inquiète, il t'attend dans le village. Parce que, dit-on, c'est l'instrument, l'arme que l'ennemi ne se débarrasse jamais. Et il l'utilise pour qui veut ou qui veut pas. C'est comme ça la vie. Et donc, nous sommes, j'aimerais le mettre dans le cadre de la période après la résurrection de Jésus. Les disciples sont un peu perdus. Et quand je parle de disciples, je parle singulièrement des apôtres. Jésus était là avec eux, puis Jésus n'est plus là. Alors on dit qu'il est ressuscité, mais on ne le voit pas. Il est là, il n'est pas là, il voyage comme l'éclair. Et ça manque. Ah, je perds mon argent. C'est un dollar. Oh, on m'a fait le coup une fois, donc. C'est un faux. Donc si ma femme cherche des sous, elle sait où trouver. La période est difficile et il y a des signes visibles chez quelqu'un qui est découragé. C'est une tristesse, c'est des larmes, c'est un isolement, c'est plein de choses. Donc il y a toujours des causes, mais il y a aussi des remèdes, n'est-ce pas? Et singulièrement, le remède, c'est Jésus-Christ. C'est dans le calme et la tranquillité que sera notre force parce qu'il est notre joie, il est aussi notre paix, il est notre justice. Et Satan cherche à nous enlever cela. N'est-ce pas? Je vais vous poser la question, être découragé, est-ce une offense à Dieu? Quels sont ceux qui disent non? Quels sont ceux qui disent oui? Oula, la neutralité n'existe pas. Hein? Mais Pierre qui avait un peu plutôt dit, Seigneur, à qui irions-nous? C'est toi qui as les paroles de la vie. Pierre se retrouve désarmé. Pour prendre Pierre, parce qu'il y a les autres, on n'entend pas parler d'eux. Il avait juré fidélité, mais il avait dit, même si tout cela t'abandonne, Seigneur, tu sais, moi je suis fidèle. Et Pierre se retrouve là, dans une situation désespérée, il ne comprend pas pourquoi cet homme-là n'a rien fait. Et on comprend mieux, parce qu'il est en colère, quand il dit, je ne connais pas cet homme. On peut mieux comprendre, je ne reconnais pas cet homme. Et il m'a fait marcher sur les eaux, il a multiplié les pains, il a guéri, il a délivré. Mais pourquoi il n'a pas appelé une armée? C'est lui-même qui m'a dit, rentre ton épée. Et puis il ne comprend pas. Mais il aurait bien aimé comprendre, mais il y a ce maudit coq, Maurice. Maurice qui vient chanter, et partout, ces coqs chantent la même chose. Cocorico, qu'est-ce que ça veut dire, Cocorico? Qu'il soit aux Antilles, qu'il soit en Afrique, qu'il soit partout en Israël, il chante Cocorico. Ah, il aurait bien aimé tordre le cou à ce Maurice. Mais ça parle dans sa tête, ça chante dans sa tête. Et pire, il y a les regards croisés. Quand il lève la tête et son regard croise celui de Jésus. Oh punaise. Vous avez entendu son chip là? Je suis lessivé. Et la Bible dit que Pierre s'en va en pleurant amèrement. Vous savez, on pourrait dire beaucoup de choses sur les regards. Le regard que je porte sur les gens. Et les regards que les gens portent sur moi. Ça dit long, hein? Et on pourrait dire beaucoup de choses des champs des coqs. Jésus lui-même dit, si les pierres, si les fidèles se taisent, les pierres crieront. Et si les pierres avaient des choses à dire, mes amis, tous ceux qui se sont un jour assis sur une pierre à parler, les pierres auront des choses à dire. Hein? C'est pourquoi on dit souvent, quand tu vas sous un arbre, regarde d'abord s'il n'y a personne en haut. Parce que nous passons par des moments difficiles et on a envie de crier. Et dans Esaïe, on dit, crie. Il m'a dit, mais que crierai-je? Crie après un gosier, c'est pas grave, crie. Il nous est arrivé de crier. Ah, ça m'est arrivé de crier. Ça soulage. Non? Des enfants qui vous prennent la tête, un mari qui vous prenne la tête, une épouse, des beaux-parents, tout ce que vous voulez, mais on a envie de crier, ça soulage. Ah, ben je crois que j'étais le seul. Pierre est épuisé, il est découragé, et finalement, il se décide. Et là, il utilise encore un élément quand on est découragé, il s'isole, il dit, ce que je sais faire le mieux, c'est pécher, je vais pécher. Et quand on est seul face à la mer, j'aime pas la pêche, hein, parce que la mer est trop vaste par rapport à moi et je n'aime pas attendre le poisson. Il faut qu'il morde tout de suite. Bon, je préfère rester sur mon lit. Et l'isolement, être seul avec son portable, son casque les oreilles, la télévision, être seul, ce sont des signes de découragement parfois. On s'isole. Et Pierre, pour ne citer que lui, nous montrera des causes ou une cause de son découragement. C'est quoi en fait le découragement? La Bible donne au moins une définition, c'est quand Goliath, pour ne prendre que cet exemple, se présente face à l'armée israélite. Et puis, dans 1 Samuel chapitre 17, vous connaissez ce passage. Et le roi Saül et tout Israël furent terrifiés et saisis d'une grande crainte. Et l'expression utilisée ici, c'est le cœur a lâché. Les bras sont tombés. Dans un autre texte, quand il fallait reconstruire la muraille de Jérusalem sous Néhémie, sous Esdras, il y a l'ennemi, l'opposition en face, qui met en défi ceux qui sont là à reconstruire le mur, les murailles. Vous savez, quand on a un adversaire en face qui est terrifiant, il est puissant, il nous met en défi. Vous savez, quand on était à l'école, on était jeune, on aimait se battre après l'école. Et parfois, on mettait une pierre là au milieu et puis on pousse. Vous connaissez ça? Et puis après, on criait, il salit. Mais on aimait se battre. On aimait faire se mesurer à l'autre. Et l'armée, c'était sous Néhémie, c'était pas une armée, c'était des opposants à la reconstruction. Ils disaient, mais je vous lance un défi. Et c'est une manière d'affaiblir l'autre en face. Et Satan, notre ennemi, cherche à nous affaiblir, cherche à nous lancer des défis. Et parfois, on tombe dedans. Nous oublions que nous avons des armes spirituelles et que nous ne devons pas nous tromper d'ennemis. Alors, si on en parle aujourd'hui, c'est que certainement, il y a des causes, il y a des raisons d'être découragé. Et toute la vie autour de nous, tous les jours, nous avons les bras cassés. On dit lui a cassé les bras. Il lui a mis un défi à relever. Il est incapable de relever le défi. La peur nous a saisis. Nous sommes terrifiés. Et c'est ça un peu la définition d'être découragé. C'est de n'avoir plus la force de se battre. Et parfois on dit, advienne qui pourra. Et j'ai déjà dit ça. On dit, laisse tomber. C'est pas la peine. Alors que nous sommes en Jésus-Christ, plus que vainqueur. Quand j'ai dit entre le dire et le vivre, il y a parfois un abîme. Alors, j'ai sélectionné quelques raisons, quelques causes du découragement, parce que j'ai dit c'est un sujet très vaste. Une parole malhonnête, une parole dite comme ça, et qui nous arrive comme un boomerang. Loin de nous encourager, ça nous fait mal. Et singulièrement par des gens qui auraient pu nous encourager, des gens qui étaient proches. Et puis on finit par dire, mais c'est un tel qui a dit. Alors que je m'étais confié à un tel. Et des propos du genre, je t'avais averti. Je connais le phénomène. J'ai vécu ça. Et ça, on n'a pas tellement envie de l'entendre, n'est-ce pas? Mais les gens ont là et la manière, et nous commettons tous des gaffes. Et il y a des champions dans ce domaine. Ils savaient, ils ont vu venir, ils sont passés par là, et puis ils vous donnent une petite piqûre de rappel. C'est pas grave. Toute chose concourt. Et quand on a dit ça, on a tout dit. Hein? Toute chose concourt. Donc, laisse-toi enfoncer la tête sous l'eau et puis garde la tête sous l'eau. Ne te bats pas. Je t'avais averti. Mais cela provoque une telle tristesse, surtout quand c'est une calomnie qui répétée devient une rumeur. Et va chercher la vérité, va chercher la source. Et ça fait mal. Et quand ça t'arrive là, tu as les bras cassés. Tu as un défi de dire est-ce que c'est ce que je t'avais dit. C'est pourquoi mieux vaut aller parler aux arbres. Et l'Ecclésiaste dit l'oiseau ailé. Il prend et puis il distribue. Deuxième raison, deuxième cause, c'est l'indifférence. Synonyme de silence. Souvent, on rentre, on sort, on est invisible, incolore, inodore. Personne ne nous a vus, personne ne nous a souhaité bienvenue, personne ne nous a appris dans la semaine. Et on se dit, mais je pensais être dans une famille. Pas un coup de fil. Pas une visite, pas comment vas-tu. Et ça, à force, moi je me souviendrai toujours de cette sœur venue de la Guyane. Cinquième fois, elle était dans l'assemblée. Personne ne l'avait invitée, souhaité bon accueil. Et elle s'est levée en colère. Elle a dit, ça fait la cinquième fois que je viens ici. Personne ne m'a souhaité bienvenue. Alors, où elle s'en va, elle retourne là où elle était, ni vue ni connue, où elle passe en force. Elle a toujours deux solutions, au moins deux. Mais la vie est comme ça. C'est vrai, on se dit, il y a des clans dans les assemblées, comme il y a eu des clans dans le peuple d'Israël. Mais on est une famille. Nous sommes des briques et nous formons une muraille. Ce n'est pas un tas de pierres qui forment une muraille, mais c'est quand les pierres sont assemblées unies les unes aux autres. Et donc Dieu nous invite à ne pas sous-estimer, à ne pas mépriser les autres, parce que tous nous avons besoin d'un regard posé sur nous et une bienvenue, une main, que les forts accueillent les faibles. Et ça fait partie de la vie de l'Église. Troisième raison, c'est notre entourage proche. Et c'est là que ça fait le plus mal. Les parents, amis et alliés. Vous les connaissez? Ceux qu'on n'oublie jamais dans les avis d'obsèques. Parce que si on les oublie, oui, mais tu as oublié un tel, tu as oublié un tel. Mais oui, mais ce sont ces gens-là qui m'ont fait mal. Parce qu'ils ont eu toujours un mot pour me blesser. Et ils t'enfoncent même sans chercher à connaître le fin fond du problème, sans chercher à connaître ton état d'âme. Ils disent, je t'avais averti. Oui, mais tu viens de tout perdre, tu viens de tout abandonner, tout laisser derrière toi pour fuir, pour sauver ta peau, comme on dit. Mais c'est pas grave, une de perdue, 10 de retrouvée. Et puis, hein, je suis passé par là, regarde-moi, je vis. Mais chacun, sa manière de résister, de réagir, de rebondir. Et on dit comme à mon épouse, arrête de palpiter. Arrête de pleurer pour si peu. Et oui, mais le psalmiste dit, je baigne ma couche de mes larmes. Ça veut dire que quand il n'y a plus de larmes, il y en a encore. Et si vous arrivez de ne pas pleurer, c'est un semblant que vous faites, parce que parfois, même quand on ne veut pas, ça coule. Ça coule. Et on ne peut pas l'arrêter, ça coule. C'est comme on est. Parfois, on vous dit, mais ce n'est pas grave, on est là. Qui on? On c'est qui? Et quand on a besoin de on n'a pas besoin de on. On ne voit personne. Mais on est là. Et puis on te dit, oh, Dieu a donné, Dieu a repris, Dieu a quelque chose de mieux pour toi. Vous connaissez les petits versets bibliques qu'on balance comme ça, comme des piqûres. Souvenez-vous de Job avec ses amis et de sa femme. Les gens proches qui auraient pu t'entourer, te donner une parole et puis te porter, intercéder, c'est ça. Hein? Intercéder, c'est se mettre contre la personne et puis le porter, la porter devant Dieu. Mais non, il n'y a plus personne. Et ils ont même dit à Job à l'époque, quand il s'agissait des autres, tu étais debout. Maintenant qu'il s'agit de toi, tu... Il n'y a plus personne? Eh bien, debout, donne une tape à tes fesses et puis avance. Ce n'est pas comme ça qu'on vous parle. Une manière d'encourager l'autre. Qu'est-ce qu'on n'a pas entendu? Hélas. Nous avons des enfants et nous avons des parents qui passent par des moments difficiles et nous devons avoir le fin mot. On doit se battre, certes, mais quand on n'a plus de force, quand on a, n'oubliez pas la définition, c'est les bras cassés. C'est le cœur qui lâche. On n'a plus la force. Allez chanter à quelqu'un qui n'a plus la force. Vous allez visiter la personne à l'hôpital et puis il dit, mais non, allons chanter. La personne n'a pas la force. Vous pouvez chanter pour et accompagner l'autre dans un chant si c'est elle qui te demande. Mais n'allez pas lui dire, et puis la Bible dit, et puis la Bible dit, et puis la Bible dit. Tu n'as rien compris. Et là, les bras cassés. Le seau est vide. Ce n'est pas seau moitié vide, moitié plein, le seau est vide. Et j'ai rencontré un frère une fois, je lui ai dit, bon, écoute, maintenant on a touché le fond, on va faire. Il m'a dit, non, je peux descendre encore. Et là, on ne peut rien faire. Hein. Il peut descendre encore, il m'a dit. Autre raison, autre cause, c'est la frustration. Le sentiment de passer d'échec en échec. Je suis nul, je ne vaux pas grand-chose. Et puis mes parents m'avaient dit, rien n'avance, je n'y arrive pas. Et à cela s'ajoutent des pensées négatives. On n'a qu'une envie, c'est de se jeter parce qu'on ne vaut rien. On me l'a dit à l'école, on me l'a dit dans ma vie, on me l'a dit chez moi, on me l'a dit partout, je suis nul. Allez faire comprendre à quelqu'un à qui on a dit ça pendant toute sa vie. J'ai rencontré un gars, il avait 54 ans, il allait se marier, 54 ans. Il m'a dit, mon père m'a toujours dit, tu ne feras rien de bon. Il m'a dit, aujourd'hui, je vais me marier. Il n'y a pas cru à telle enseigne qu'il a divorcé quelques temps après. Je n'y arriverai pas. Attention au regard, attention aussi aux paroles toxiques que nous laissons à nos enfants, mais aussi à nos frères, à nos sœurs. Et puis, il y a ce que j'ai fait, ce que j'aurais dû faire selon la volonté de Dieu qui m'a frustré parce que je me rends compte, en fait, ce n'était pas la volonté de Dieu, ce n'était pas le choix de Dieu. Et on se dit, ah, j'ai raté le coche. J'aurais dû. La frustration, c'est quelque chose. Une dernière cause, parce qu'on aurait pu citer bien d'autres, c'est la fatigue. Le ras-le-bol. Et ça, c'est impitoyable. Quand on est physiquement fatigué, moralement fatigué, spirituellement, ça prend un coup. Ouais. On n'a envie de rien. Lire la Bible, je connais. Prier, Seigneur, tu sais. Chanter, mais non, même pas, je chante faux. Il y a des éléments, c'est pas la peine. On est vide. Et souvent, je dis, un manque de sommeil. Parce que j'ai cru que j'étais Superman ou Superwoman et que s'il n'y avait pas moi pour le faire, personne ne le fait. Eh bien, tout à la conclusion, épuisé. Et quelqu'un qui est épuisé peut rester des années à se remettre. On parle de burn-out. On y a un test stressé. Il y a un remède au stress. Nous-mêmes, nous nous sommes déconnectés de la source qui est Dieu. pour utiliser un terme à la mode, connexion, déconnexion. Mais les fatigues, je dis la fatigue, mais les fatigues morales, physiques et spirituelles, c'est un tout, c'est notre corps qui en a marre. Et quand on en a marre, on va là au bord du précipice et puis on dit, Seigneur, je fais quoi? On n'a pas envie. On n'a envie de rien. Et souvent, j'ai entendu, je suis au bout de ma vie, au bout du bout. Pourquoi? Parce que je ne comprends pas la vie. Comment toi, tu passes ton temps à sourire, à être toujours dans la paix, dans la joie, et puis moi, rien ne marche. Qu'est-ce que tu as en plus que moi? Qu'est-ce que j'ai en moins que toi? Et là, on culpabilise. On boit du noir. Toutes ces raisons-là, je n'ai pas fini, conduisent au découragement. Mais tu n'es pas le seul à traverser le désert. Dieu est avec toi. Souvenez-vous d'Agar. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Et souvent, nos larmes nous empêchent de voir les grâces et les bénédictions de Dieu. N'est-ce pas? Dieu nous a laissé tellement de promesses dans sa parole que le découragement, l'isolement nous empêche de nous y attacher, de les voir et de les prendre pour notre marche. Le psalmiste, Psaume 6, verset 7, je l'ai déjà dit, je m'épuise à force de gémir. La nuit, je baigne ma couche de mes larmes. Et de tout temps, les hommes ont agi, ont fonctionné pareil. Même les plus valeureux ont crié à Dieu. Je ne connais pas un pasteur, n'est-ce pas Serge? Il n'est pas connu ce moment de vide. On n'a plus rien à donner. Hein? On arrive, on dit, Seigneur, qu'est-ce que je fais? Moïse est arrivé à ce stade, il a dit, Seigneur, c'est ton peuple. Et Dieu, Moïse a dit, mais non, c'est ton peuple. Vas-y, arrache-le de là. Et c'est toi qui l'as arraché l'Égypte. C'est ton peuple. Et il s'est renvoyé la balle comme ça. Et Moïse dit, écoute-moi, autant me tuer ici, mais je n'avancerai pas si tu n'avances pas avec moi. Et tous les serviteurs de Dieu, toutes les servantes de Dieu ont connu ces moments-là. Je pense à Moïse, mais je pense aussi à David, au prophète Élie, au prophète Jérémie, à Habacuc, pour ne citer que cela, et surtout notre Seigneur Jésus-Christ, à Gethsémané. Il dit, Seigneur, si seulement tu pouvais. Mais c'est pour ça que je suis venu. Et à la croix, il dit, Seigneur, pourquoi? Il s'est senti abandonné. Et parfois, on se sent abandonné par sa famille, par ses frères, par ses amis. Et c'est souvent quand on est dans les situations difficiles qu'on se dit, mais où sont mes amis? Et là, on commence à les compter. Et on n'arrive pas à toi. Ah, quand il s'agit de boire et de manger, de faire la fête, de boire du champagne, il y a des amis. Hein? Alors, quelle attitude adopter? Alors, c'est une offense ou pas à Dieu d'être découragé? Alors, oui et non. Ce n'est pas un péché parce que nous sommes humains, n'est-ce pas? Mais quand nous sommes découragés, que nous crions notre douleur à Dieu, notre ras-le-bol, et que même Dieu reste silencieux, n'est-ce pas? Nous avons prié, nous avons jeûné, on a même confondu jeûne et grève de la faim. Mais ça n'a pas marché. Dieu n'écoute pas, Dieu n'entend pas, Dieu. Et, ah oui, c'est ce que tu dis. Mais Dieu écoute, Dieu voit, Dieu entend et Dieu agit. N'est-ce pas? Il travaille en coulisses, j'aime à dire, et il ne fait pas d'erreur. Et c'est vrai que nous ne sommes pas égaux dans la souffrance. Il y a les uns, il y a les autres. Et chacun a sa manière d'orchestrer, d'analyser et puis de se tirer d'affaire avec le Seigneur, bien sûr. Et puis il y a d'autres qui restent là à se laisser enfoncer. Nous devons nous battre. C'est difficile pour certains de lâcher prise, surtout quand il s'agit de nos enfants. Ils nous font passer sous une table, comme on dit. Même quand ils ont 40 ans. Et loin de les laisser entre les mains de Dieu. On les porte, on les porte, on les porte, on les supporte. On pleure, mais ça change de quoi? J'ai une sœur qui portait son fils Léon. Elle a 9 enfants. Mais c'est le seul qui n'entend pas l'évangile. Il y a toutes les sauces évangéliques, mais pour que la parole rentre là-dedans et descendre plus bas, rien à faire. Jusqu'au jour, elle m'a dit, j'ai entendu audiblement Dieu me dire, déposez-vous. Pas facile, hein? Aujourd'hui, la maman est là, Léon est parti, il a fait la traversée. À 50 ans, même pas. Dieu nous invite à nous décharger parce que ce n'est pas ton combat. C'est mon combat. Ce n'est pas simple de lâcher prise. Et on peut être découragé, mais a-t-on le droit de demeurer dans le découragement? Je dis non. Parce que justement, nous avons des fidèles promesses, de fidèles promesses de la part de Dieu. Et Dieu, quand il dit, la chose arrive. Je viens à ton secours, ne promène pas des regards inquiets. Le psalmiste disait au psaume 121, d'où me viendra le secours? L'Éternel qui a fait les cieux. Si jusqu'ici l'Éternel nous a secouru, mes amis, pourquoi là, dans cette situation présente, je n'arrive pas, je reste prise? Mon cœur palpite, mon cœur lâche. Est-ce que Dieu a changé? Ce n'est pas bon quand le cœur et les mains lâchent. Il y a manque de confiance. Hébreux, je vous invite à lire Hébreux chapitre 12. Hébreux chapitre 12. Vous savez, au chapitre 11, il y a toute une panoplie de héros qui ont traversé les temps avec force. Et au chapitre 12, verset 3, il est dit, considérez en effet, Hébreux 12, verset 3, considérez en effet celui qui a enduré de la part des pécheurs une telle opposition contre sa personne, afin que vous ne vous fatiguiez pas, l'âme découragée. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Allô? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang. Et vous savez, par définition, un martyr, un témoin, c'est un martyr. C'est celui qui va jusqu'au martyr, jusqu'au sang. Vous n'avez pas encore combattu contre le péché et vous avez oublié l'exhortation qui vous est adressée comme à des fils. Mon fils, ne prends pas à la légère la correction du Seigneur. Tant que Dieu n'a pas dit, ne t'a pas dit, c'est fini mon fils, c'est fini ma fille, c'est pas fini. Tu es encore en construction. Et Dieu continue de te tailler comme un diamant. Tant qu'il n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. C'est comme un match de foot, hein? Tant que l'arbitre n'a pas sifflé, tu joues. Et donc Dieu nous invite à rechercher sa face. Chercher ma face pendant qu'il se trouve. Il faut cette prise de conscience. Reconnaître que j'ai besoin d'aide. Vous savez, non, ça va, tout va bien. Ça va, mon frère, ça va. Vous savez, c'est un ça va qui ment à longueur de journée. Hein? Mais ça va pas. Frère, viens prier avec moi, viens prier pour moi. Non, ça va. Mais quand tu arrives chez toi, tu pleures. Vous comprenez ce que je dis? Il n'y a pas de honte à pleurer. Il n'y a pas de honte à dire, mon frère, ça va pas. Si c'est le porte-monnaie qui est vide, si c'est un enfant qui te fait passer par tous les chemins, prie avec moi. À deux, on est un troupeau. Hein? Un troupeau, ce n'est pas un. Mais à partir de deux, c'est un troupeau. Et donc, nous avons besoin de la force ou des forces qui nous accompagnent. Et essayons de prendre conscience que je ne suis pas bien, que j'ai besoin d'aide, que je suis dans une famille et que je vais avec force prendre le téléphone et appeler un tel pour lui dire, est-ce que tu veux prier avec moi? Ne serait-ce que par téléphone. Mais non, mais est-ce qu'on est trop fiers, mes amis, pour faire ça? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Qu'est-ce qu'un tel va dire? Et puis est-ce qu'un tel ne va pas appeler un tel pour dire un tel que... Vous savez, journal là... Quelqu'un a dit, la parole n'a pas de pied, mais il court bien, hein, il court bien. Et donc, arrêtons de sous-estimer. Les jeunes se fatiguent aussi. Hein? La Bible dit, les jeunes se fatiguent bel et bien, mais quand ils renouvellent leur force, quand ils trempent leur énergie, quand ils se reconnectent à Dieu, Il court, marche, il ne se fatigue pas. À plus forte raison pour les aînés. David dit, j'ai grandi, j'ai été jeune, j'ai vieilli et je n'ai jamais vu Dieu me lâcher. Si jusqu'ici Dieu nous a secourus, mes amis. Et c'est ce que Jésus disait à Marie, hein? Marie ou Marthe, une des deux sœurs, il a dit, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Et à quel moment nous voyons la gloire de Dieu? Mais c'est tous les jours que nous voyons la gloire de Dieu. Tous les jours quand nous acceptons de mettre notre confiance en lui. À partir du moment où ta confiance bascule à gauche et à droite, résiste. Dieu nous a donné des armes spirituelles pour résister à l'ennemi, pour le faire marche arrière. Alors ne nous laissons pas abattre, mais reconnaissons que nous avons besoin de repos. C'est dans le calme et la sécurité, le repos, que Dieu parle. Vous vous souvenez du prophète Élie? Il fuyait devant Jézabel. Dieu dit, écoute, couche-toi là, dos. Je m'en occupe. Et quand il s'est réveillé, Dieu dit, redors. Redors-toi. Parfois, on trouve que c'est injuste de rester dans un lit parce que ce n'est pas normal. Mais ton corps est épuisé, ton corps est fatigué. Reste dans ton lit, il n'est pas mouillé. C'est ma mère qui disait ça. Ton lit n'est pas mouillé, reste dans ton lit. Dors. Et vous savez, ça fait du bien quand on se réveille et puis on dit, ah, j'ai dormi comme un mort. Et ça fait du bien. Parfois, c'est 10 minutes, parfois, c'est une demi-journée. Mais jusqu'ici, l'Éternel prend soin de nous. Et tant que Dieu n'a pas dit c'est fini, c'est pas fini. Vous savez, je regarderai. J'ai ce mois-ci ou le mois prochain, je sors de 5 années de rémission d'une opération. Et quand le médecin qui devait m'opérer m'a vu, il m'a dit, écoutez, vous avez des, ce qu'on appelle en médecine des marqueurs. Il y avait des ganglions qui partaient d'ici et qui descendaient. Et il m'a dit, je ne vous cacherai pas, j'ai vu mes collègues, ils m'ont dit, ton patient est déjà mort. Il dit, mais je ne l'ai même pas encore ouvert. Donnez-moi l'occasion. Et avec son épouse qui est aussi chirurgienne, ils se sont mis à deux pour m'opérer. Il m'a dit, normalement, après l'opération, vous aurez les 2 mois de rayon, peut-être la chimio. Et à la sortie de l'opération, il m'a dit, on a fait analyser vos ganglions. Il n'y a rien. Et j'ai dit, les rayons, il m'a dit, pas besoin. Et je suis sorti jusqu'à maintenant sans un comprimé d'oliprane, sans antibiotiques, sans pansement, sans gel, sans rien. Et chaque fois, il me fait faire des examens, c'est inférieur à 0,0 et des poussières. Il me dit, c'est, on ne peut pas l'interpréter. Alors je, il me dit, j'ai dit oui, mais moi aussi j'ai dit ça avant vous. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu, c'est Dieu qui fait. Tant que Dieu n'a pas dit c'est fini. Le psalmiste au psaume 18 dit, je ne mourrai pas, je vivrai. Alors c'est une petite situation, là, un enfant qui va me faire passer sur une table, qui va me tuer. Ah mais il sera mort avant. Nos parents ne le faisaient pas passer sur une table, hein. Ah, il te disait, c'est moi ton père, hein? Bref. Aussi, le prophète Esaïe dit au chapitre 25, verset 4, Éternel, tu as été un refuge pour le faible et pour le pauvre dans la détresse. Esaïe 25, verset 4. Tu as été un refuge, une tour, une forteresse, et il le restera parce que Dieu ne change pas. Nous devons apprendre à vivre avec le temps de Dieu. Avec le temps de Dieu qui ne se trompe pas, il ne fait pas d'erreur. Et le temps de Dieu, c'est maintenant. Vous comprenez ce que je dis? Vive avec le temps de Dieu et vive le maintenant de Dieu. Le passé est passé. Je vis le maintenant parce que Dieu connaît et il me tient dans ses bras puissants. Puissants. Donc, nous sommes à son école. Et vous savez, tant que le feu rouge ne devient pas vert, on ne passe pas. Sauf ceux qui sont pressés, parce qu'on dit le temps le plus court, c'est entre le feu vert, le feu rouge et le feu vert. Et un klaxon. Il y a à peine passé au vert qu'on a déjà klaxonné, dégage. mais je dois prendre le temps de Dieu. Passer au feu vert. Et l'école de Dieu, c'est l'école de la patience, c'est l'école de la persévérance, c'est une école difficile. On a beau avoir 40 ans de témoignage, quand Dieu décide de te faire passer par le feu, ça va être dur, mais tu seras le seul à passer par le feu. Dieu va te précéder, parce qu'il est passé par là. Alors, nous sommes invités à participer à la résistance. Nous sommes dans l'armée de Dieu. Hein? Invités à participer à la résistance. Ferme dans la foi, tous armés pour être plus que vainqueurs en Jésus-Christ. Je termine avec ce verset du Psaume 42, verset 12. Quand il nous arrive d'avoir le cœur qui lâche, les bras qui tombent, le psalmiste dit, « Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans de toi? Pourquoi? Tu n'es pas seul. Pourquoi t'as battu mon âme et gémis-tu au-dedans sur toi en te disant tout le temps, « Où est ton Dieu? » Il est où ton Dieu? Et si Dieu est au-dedans de toi avec paix et assurance, pas de panique. Attends-toi à Dieu, car je le célébrerai encore, il est mon salut et mon Dieu. Il est mon salut et mon Dieu, il est mon libérateur, il est ma délivrance. Alors de qui aurais-je crainte? De quoi aurais-je crainte? Parce que Dieu est celui qui est. Il n'est pas celui qui sera, il est celui qui est. Que Dieu nous aide, chers frères et sœurs, toujours lever la tête. C'est pourquoi je dis toujours, on peut être chrétien triste, mais pas triste chrétien. Ça fait une différence. Et Dieu nous aide.